Lavage des mains, gel hydroalcoolique, masque, distanciation d'un mètre, des termes et des habitudes que nous avons prises avec l'épidémie de Covid-19. Avec la pression qu'avant, malgré les épidémies de grippe ou de gastro, on avait parfois tendance à oublier que l'hygiène était la clé pour lutter contre les maladies. Pourtant, avec la vaccination et les antibiotiques, elle est une des priorités pour être en bonne santé. Et il n'y a pas que les maladies infectieuses. Une bonne hygiène de vie permet par exemple de faire reculer les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Comment les maintenir, surtout dans des pays en développement où on manque de tout, mais aussi comment nettoyer sa maison, un hôpital, sans polluer l'environnement? C'est l'objet de cet épisode de La Fabrique du Savoir, saison 2, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France de Poitiers. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde et je reçois trois invités pour approfondir ce sujet à l'occasion de l'université d'été de l'EMF dédiée à la Grande Muraille Verte, une université qui réunit une cinquantaine de chercheurs africains et européens. Et parmi eux, Priscilla Dubos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropobiologiste, directrice adjointe de l'Observatoire Homme-Milieu International Tesekere, et vous travaillez sur les relations entre la santé des populations et leur environnement physique et culturel. Vous nous en parlerez. Bruno Grandbastien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien président de la Société française d'hygiène hospitalière, spécialiste de l'écologie de la santé à l'hôpital et professeur de santé publique à Lausanne. Bienvenue. Et enfin, Lamine Gueye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et directeur de l'unité de recherche internationale environnement, santé, société du CNRS en partenariat avec trois pays africains. Bienvenue à tous les trois. Pour commencer, une question très basique. Quel est le rôle de l'hygiène et comment sa place a évolué dans notre société? Monsieur Grandbastien.
L'hygiène est probablement un des fondements de la santé. On parle souvent de révolution blanche qui a peut-être plus contribué à l'amélioration de la santé, c'est-à-dire la capacité à conserver les aliments, la capacité à lutter contre les bactéries. Et ça a probablement eu un impact plus important que les antibiotiques ou peut-être même que la vaccination. Je suis un peu provocateur.
Je le disais en introduction, justement, on a souvent oublié ce paramètre en mettant les deux autres en avant. Priscilla Dubos.
En tant qu'anthropologue, on étudie, nous, nécessairement la transition démographique et notamment ce qui a permis d'augmenter l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie aussi aux jeunes âges. Et évidemment, l'hygiène, dans ce cadre, occupe une place extrêmement importante, puisque, comme le disait Bruno, en effet, c'est le premier déclencheur, quoi, finalement, de l'amélioration de la santé.
On peut aussi intégrer l'hygiène de vie, l'hygiène comportementale, qui joue un rôle majeur dans l'autre aspect épidémiologique de l'Afrique, qui est la prévention des maladies chroniques non transmissibles. L'hygiène biologique, c'est pour prévenir les infections, mais pour prévenir le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, il y a une autre hygiène, qui est l'hygiène de vie, l'hygiène comportementale. Si je considère l'Afrique, c'est une nouvelle donne concernant les maladies. C'est ce que nous expérimentons actuellement. Le double fardeau, on l'appelle, les médecins de santé publique. D'une part, les maladies infectieuses qui ont bien reculé, mais qui nous posent encore des problèmes, mais d'autre part, l'émergence et la croissance des maladies chroniques non transmissibles. Ce qui fait que, étant donné que les priorités étaient dans la prévention des maladies infectieuses, lavage des mains, port des masques, mais maintenant la vaccination, de plus en plus, il est impérieux d'en parler. On n'en parle pas suffisamment. Ça commence, mais il y a un travail à faire.
Quelles sont les maladies qu'on retrouve principalement dans les pays africains, justement, liées à ce manque d'hygiène de vie?
C'est le diabète qui prend sa place, un taux assez important qui tourne autour de 5 à 8% de la population âgée de plus de 25 ans en fonction des pays. C'est l'hypertension artérielle qui a pris beaucoup de proportions, mais aussi chez les personnes jeunes et les enfants, il y a l'obésité qui est en train de s'installer progressivement.
Et quelle évolution? Est-ce que c'est une évolution rapide de ces maladies-là ces dernières années?
Absolument, assez rapide. Aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, qu'on pourrait en témoigner aussi Priscilla qui a travaillé dans cela.
Justement, Priscilla, quel constat on peut faire?
Là, on est vraiment dans la transition épidémiologique et nous, c'est ce qui nous intéresse à l'Observatoire Milieu International des Secrets et aussi à l'IRL, que dirige Lamine Gaye, c'est que cette transition épidémiologique, qui est un modèle qui décrit, si vous voulez, la prééminence des maladies infectieuses dans un premier temps dans la mortalité pour passer à celle des maladies chroniques non transmissibles dans un deuxième temps, c'est ce qu'on observe actuellement au Sénégal. Et c'est assez rapide et c'est ce qui conduit aujourd'hui à ce double fardeau, c'est-à-dire que on a à la fois une prévalence de maladies infectieuses relativement importante, même si elle est clairement en train de diminuer, et une montée en puissance des maladies chroniques non transmissibles. Et la difficulté, je dirais, sur ces maladies chroniques non transmissibles, c'est que l'étiologie est quand même multifactorielle et que c'est ce qu'on a du mal à définir actuellement, mais c'est aussi toute l'opportunité de la recherche, c'est qu'il faut mobiliser un nombre extrêmement important de disciplines pour arriver à comprendre quelles sont les logiques de la mise en place de ces maladies dans une population.
Bruno Grand-Bastien, c'est ce qu'on appelle l'écologie de la santé ?
Oui, effectivement, c'est une vision totalement transversale de l'approche santé à travers ces différentes tous les déterminants qui vont composer un petit peu et influencer la santé. Alors, les pathologies infectieuses ont eu une heure de gloire très très importante. Les antibiotiques nous ont fait rêver à la disparition des maladies infectieuses. Je pense que le déclic s'est fait peut-être à la fin des années 70 avec l'apparition de façon très très importante de l'antibiorésistance. Et pour revenir un peu sur le thème des maladies infectieuses, c'est probablement un des défis pour l'ensemble du monde. Et alors, c'est quelque chose qu'on voit très très fort en Afrique aussi, avec le développement de bactéries multirésistantes, dans un contexte où il n'y a plus beaucoup de développement d'antibiotiques. Donc, les optimistes disent qu'on est au pied du mur, les pessimistes disent qu'on est dans le mur. Donc, vous voyez, la barre est placée assez haut quand même en termes d'impact sur cette approche maladie infectieuse, maladie transmissible.
Quand vous dites ça, excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir freiner le développement de ces maladies-là ou face à ça, on ne va pas réussir à toutes les combattre ?
Alors, on est dans une situation où aujourd'hui, des bactéries qui sont devenues résistantes à tous les antibiotiques commencent à diffuser et à circuler, et elles circulent entre les pays. Donc, effectivement, la difficulté à proposer des traitements devient un enjeu majeur. Un enjeu purement médical, mais aussi un enjeu économique, puisque si des nouvelles molécules arrivent sur le marché, elles ne sont pas accessibles à tout le monde.
On l'avait vu avec le vaccin contre la Covid.
Tout à fait, voilà. Le risque infectieux a pris quand même une acuité très très forte ces deux dernières années, a touché le monde entier, et on n'a peut-être pas tiré beaucoup de leçons de ce qui s'était passé les années précédentes. Hein. On peut parler de la grippe H1N1, on peut parler plus récemment d'Ebola, qui a quand même mis en grande difficulté les systèmes de santé de nombreux pays africains. Donc effectivement, on a un effet d'oubli rapide des mesures de base et des règles d'hygiène au sens très large du terme, hein, hygiène de vie aussi bien que ce que nous appelons, nous, dans le jargon un petit peu de l'hôpital, la prévention et le contrôle de l'infection.
L'une des solutions pour garder tout ça en tête et lutter contre ces doubles maladies, on va dire, c'est la prévention ?
Oui, c'est la prévention dans le sens prévention des infections, c'est aussi la prévention sur le plan alimentaire, comportemental, et c'est aussi la prévention sur le plan de la prise des médicaments, parce que comme le dit notre collègue, l'antibiorésistance pose un véritable problème, un défi pour toute l'humanité. L'industrie pharmaceutique est en train de s'installer en Afrique, et on sait que si les mesures idoines ne sont pas prises pour qu'il n'y ait pas de rejet de produits dans des zones qui peuvent contaminer l'eau, c'est une autre hygiène qui se pose, c'est l'hygiène environnementale. Cela étant, pouvant être aggravé en Afrique par le fait que déjà les gens ont l'habitude de l'automédication qui peut favoriser l'antibiorésistance, parce que je donne un exemple simple, quelqu'un a une diarrhée, au lieu de prendre un médicament antidiarrhéique, il prend un médicament, la tétracycline, très connue, que les gens pensent pouvoir régler tout ce qui est problème infectieux digestif, et ça peut favoriser une antibiorésistance. S'y ajoutent encore les difficultés du système de santé de l'Afrique qui peuvent aussi favoriser des questions d'hygiène sur toujours l'angle de l'antibiorésistance, c'est que une bonne partie des soignants sont des paramédicaux, ne sont pas des médecins.
C'est aussi ce que vous constatez, Priscilla Dubos.
Ce que je constate surtout aussi, c'est que cette épidémie de Covid-19, elle a quand même été assez révélatrice du fait que finalement tout est lié. Parce que ce qu'on a vu, c'est un virus, donc c'est quelque chose d'infectieux, mais qui a malgré tout tué en premier lieu des gens qui étaient atteints de maladies chroniques non transmissibles. Et donc finalement, pour une fois, de manière brutale, quoi, presque, on a vu qu'on ne pouvait pas séparer d'un côté les agents infectieux, de l'autre les maladies chroniques, et finalement ça réunit un peu tout ce dont on parle ici, c'est-à-dire à la fois l'hygiène du point de vue évidemment de l'éradication de tous les agents transmissibles, mais aussi l'hygiène de vie pour ce qui va toucher à des pathologies plus chroniques, et aussi, comme le disait le professeur et Bruno, sur l'hygiène environnementale, puisque à partir du moment où on parle de changements environnementaux, de changements climatiques, on va avoir nécessairement des luttes hein, aussi qui vont se mettre en place pour retrouver un équilibre dans l'environnement, et que ça, c'est peut-être parfois aussi la source justement de l'émergence de certaines maladies. Et donc que cet équilibre, ben voilà, il va traverser l'ensemble des sphères, et que à un moment une disruption d'équilibre va aussi toucher les autres compartiments.
Et comment on fait prendre conscience à la population de l'importance de tout ça? C'est-à-dire, bon, ok, il faut se laver les mains pour lutter contre les maladies infectieuses, mais il faut aussi faire du sport, limiter sa consommation de sucre, de gras, etc.
C'est clairement une éducation à la santé au sens très large du terme. Ça commence très très tôt, ça doit commencer très très tôt. Hein. En sciences de l'éducation, on sait que beaucoup de schémas sont gravés avant 10-12 ans. Donc ces étapes-là, si elles sont passées, si elles sont perdues, pour passer des messages de prévention, d'alimentation correcte, d'activité physique, de gestes, du quotidien finalement, on sait qu'on va avoir beaucoup de mal à rattraper et peut-être de redonner des perspectives de santé à l'ensemble d'une population.
Est-ce que l'Afrique, avec de nombreux pays en développement qui voient, du coup, qui évoluent d'année en année quasiment, et qui deviennent de plus en plus riches, etc., et qui voient, on le disait, de nouveaux aliments, par exemple, arriver, des fast-foods, on parlait d'hygiène de vie, des fast-foods, des médicaments, vous le disiez, certains pays qui donc reçoivent aujourd'hui de plus en plus de médicaments. Est-ce que ce sont dans ces pays-là qu'il faut aussi surveiller très attentivement pour ne pas développer beaucoup d'antibiorésistance parce que les gens prendraient peut-être mal leur traitement ou justement mangeraient trop au fast-food sans avoir le temps quasiment d'être éduqués à au bien manger.
Étant à Dakar, moi ce que je vois, c'est aujourd'hui des enfants qui, quand ils toussent, mettent la main dans leur coude. Donc, je pense que l'éducation à la santé, elle est là. Je me dis que s'ils arrivent à mettre leur bouche, dans leur coude, ils arrivent très certainement à comprendre qu'au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, il faut avoir un certain équilibre, encore une fois. Et je suis sûr qu'on peut avoir une réactivité assez importante de la population. Mais je crois aussi que ça doit se doubler de certaines mesures qui vont au-delà de la population et qui doivent être des mesures plutôt au niveau politique et qui doivent permettre aussi aux gens de pouvoir faire attention et de pouvoir être dans la prévention, quoi, pour le coup. Puisqu'on a aussi des facteurs culturels et notamment socio-économiques qui sont associés au fait de ne pas pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, par exemple du point de vue de l'alimentation. C'est quand même relativement admis que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens économiques, on va plus se tourner vers des aliments qui sont riches en gras et en sucre. Donc, je pense que les deux doivent aller de concert vers une hygiène et une prévention qui seront à ce moment-là plus faciles.
On parle parfois de monde aseptisé, en tout cas dans certains domaines, et pourtant les maladies sont toujours là. Pourquoi ? C'est vraiment lié à l'antibiorésistance ?
Oui, l'antibiorésistance fait ses effets, mais je crois que le monde n'est pas si aseptisé que ça. Mmh. Je ne pense pas. Hein. Si on se met, en tout cas dans le contexte africain, il y a eu de bonnes pratiques hein, et on peut dire que la COVID a impacté positivement dans ce sens. Tout c'est sur le coude, éviter de porter les mains au niveau des yeux, ça peut prévenir autre que COVID, comme faire reculer le trachome, qui est une conjonctivite. Mais on a vu aussi certaines pratiques traditionnelles qui ont régressé, qui ont presque disparu même dans certaines zones, qui sont rituelles. C'est-à-dire, après un enterrement, au Sénégal par exemple, les gens revenaient des cimetières et se lavaient sur une bassine commune où il y avait de l'eau, hein, il fallait se laver. Ça, les gens ne le font plus. Et au contraire, ces bassines communes ont été remplacées par de l'eau avec de l'eau de Javel ou avec du savon. Cela témoigne que l'aseptisation est loin de disparaître. Je crois que il faut continuer la sensibilisation, l'éducation. La population est réceptive à déjà des acquis. Cependant, il y a d'autres mesures d'accompagnement quand même fort utiles. Hein. D'une part, pour les maladies infectieuses, c'est accroître la disponibilité de l'eau qui pose encore problème. Parce qu'on a beau parler d'hygiène, la base quand même des mesures prises, que ce soit à l'hôpital, à la maison ou au niveau individuel, à l'école, c'est une disponibilité de l'eau et une eau relativement potable. L'autre élément, on a beau parler d'hygiène comportementale, faire du sport, du jogging, rouler à vélo, l'aménagement urbain, et ça, ce sont des décisions politiques. Ce n'est pas au niveau individuel.
Bruno Grand-Bastien.
Oui, il y a une dimension effectivement politique qui était extrêmement importante. La première mesure pour limiter les maladies transmissibles à l'hôpital, par exemple, c'est de disposer de l'eau. Et l'OMS rappelle que la sanitation, c'est la première étape du développement de la prévention et du contrôle de l'infection. L'OMS a proposé, il y a maintenant 2 ans, un outil pour permettre aux différents établissements d'évaluer leur niveau d'engagement dans la prévention et le contrôle de l'infection de façon assez large. Et cet outil, c'est un modèle de prévention et contrôle d'évaluation de la prévention et du contrôle de l'infection. Il est très largement utilisé dans tous les pays du monde. Et parmi les questions, les 60 questions de ce petit manuel, il y a disposez-vous de l'eau courante ? Une question un peu brutale. Est-ce que vous avez plusieurs patients dans un même lit à l'hôpital ? Des dimensions qu'on a du mal parfois à imaginer encore et qui représentent finalement un enjeu pour le développement de la santé. Et cette dimension finalement d'organisation politique, elle est extrêmement importante. Permettre à la population, permettre au système de santé de disposer de l'ensemble des outils qui sont maintenant bien connus, qui permettent d'avoir une efficacité sur la prévention et le contrôle de l'infection. On a un exemple qui est quand même majeur. Il y a une 20aine d'années à peu près, s'est développée la friction hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Les promoteurs de cette technique ont décidé de ne pas déposer de brevet, ou plutôt de déposer un brevet et d'en faire cadeau à l'OMS. Et donc de permettre à tous les pays du monde de fabriquer des solutions hydroalcooliques à coût extrêmement modique, finalement, puisqu'il suffit d'avoir de l'éthanol, qu'on distille à partir de nombreux produits, et un petit peu de glycérol. Et puis, on a notre solution hydroalcoolique utilisable partout, sans la moindre difficulté. Aujourd'hui, alors qu'il y a eu un débat sur les brevets sur les vaccins Covid, je trouve que cet exemple est assez révélateur d'une démarche de diffusion politique au sens international, hein, d'une méthode de prévention et de contrôle des infections.
Donc ça veut dire quoi ? C'est un manque de volonté aussi des pouvoirs publics. Je parle notamment des investissements dans les hôpitaux, par exemple.
Il y a probablement une dimension aussi d'investissement à faire. On voit quand même que c'est une association entre une volonté politique de développer l'hôpital et puis la volonté d'acteurs associatifs d'aider au développement d'une discipline.
On parlait tout à l'heure d'écologie de la santé. Est-ce qu'on oublie parfois que un environnement en bonne santé, ça crée aussi une société, des individus en bonne santé, que si la médecine est indispensable pour guérir les individus malades, bah, la meilleure façon de se soigner, c'est de vivre dans un environnement sain.
On peut avoir un environnement où on a un équilibre. Je pense que c'est plus clair de parler de ça parce que, y compris même dans la santé humaine, finalement, la santé humaine, c'est aussi un état d'équilibre, quoi. C'est pas nécessairement un état extatique de bien-être permanent, quoi. C'est vraiment un équilibre entre des choses qui fonctionnent bien et puis finalement tout marche. Ce sur quoi il faut appuyer, en tout cas, c'est le fait que cet environnement, il met quand même pas mal de temps à se dégrader quand on s'y met, notamment les populations humaines, mais il met encore plus de temps à se restaurer. Et ça, vraiment, il faut le garder en tête parce que mine de rien, arriver à restaurer un environnement, ça se fait sur le temps extrêmement long, alors que c'est quand même une des dimensions essentielles, comme vous l'avez dit, à la santé en général.
Amine Gaye, vous souhaitez rebondir sur ça, sur l'importance de l'environnement?
Oui, on a dit l'hygiène, c'est majeur, mais évidemment, l'environnement dans lequel s'exerce cette hygiène est majeur aussi parce que l'environnement même contribue à l'hygiène. Certes, l'hygiène se fait au niveau individuel, mais quand l'environnement influence moins la dégradation de cette hygiène ou est favorable à la prise de décision sur le plan individuel, c'est encore mieux. On donne l'exemple. Si un environnement permet le développement de certaines bactéries, de certains parasites, il est évident qu'on aura beau faire des efforts sur l'hygiène des enfants, par exemple, n'empêche, cet environnement va les contaminer. Parce qu'en allant à l'école, ils sont sortis de la maison, ils vont à l'école, il y a de l'hygiène, mais entre les deux, il y a une zone de contamination qui empêche à ces enfants d'être en bonne santé. Ce qui est documenté, on a des équipes qui travaillent dans les parasites et ils ont permis de suivre l'impact d'aménagement de l'environnement sur certaines maladies comme la bilharziose, pour donner un exemple simple.
Qui est quoi? C'est quoi cette maladie?
C'est une maladie parasitaire qui se transmet à partir d'une eau environnementale qui est souillée et qui a permis le développement de mollusques. Ces mollusques-là hébergent ce parasite, les bilharzies, on les appelle, et qui donnent, après une infection urinaire, par exemple, c'est la bilharziose. Et même en zone périurbaine, en Afrique, si cet environnement n'est pas assaini, la maladie-là ne disparaît pas. Or, dans certaines villes africaines, cette maladie existe. C'est pareil comme pour un environnement qui permet le développement de moustiques. C'est un exemple très simple. On ne peut pas enrayer le paludisme qui, vous le savez, pose une importante mortalité encore dans beaucoup de pays africains. Et c'est majeur aussi, donc, pour promouvoir l'hygiène. Penser au niveau individuel, c'est bien, mais l'environnement dans lequel la personne qui vit est majeur à assainir le maximum possible pour éviter le développement des microbes.
Et à l'hôpital, en quoi consiste l'écologie de la santé?
Alors, c'est un enjeu à l'hôpital parce que c'est un écosystème particulier, l'hôpital. Hein. On regroupe les patients, donc on potentialise les risques de transmission quand on parle de maladies transmissibles, maladies infectieuses transmissibles. Mais on est aussi un environnement où on va prendre en charge des maladies avec des gestes techniques, avec des risques liés à ces gestes techniques. Donc, l'environnement à l'hôpital, il a quand même un caractère beaucoup plus aseptisé. On évoquait ce mot, notre monde aseptique. À l'hôpital, il l'est quand même beaucoup plus que dans la communauté. Et heureusement, parce que on a des contraintes qui imposent d'avoir un degré de vigilance environnementale plus important. Maintenant, il y a une dimension que je voudrais un petit peu citer. L'hôpital génère aussi des troubles de l'environnement autour de lui. Et si on parlait d'antibiorésistance, on sait que les effluents des hôpitaux sont potentiellement contaminés, contaminants, ou contiennent des résidus d'antibiotiques, de produits de désinfection, et donc vont impacter l'environnement immédiat autour de l'hôpital. Il y a plusieurs études qui ont montré que l'antibiorésistance est plus importante dans un périmètre de dispersion des effluents d'un hôpital. C'est une dimension à ne pas perdre de vue également, parce que un endroit qui est censé soigner, sauver des vies ne devrait pas être un facteur d'aggravation de la santé des personnes qui vivent autour.
Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour limiter cette pollution environnementale ?
Très clairement, c'est des politiques de gestion un petit peu des effluents, des déchets. Optimiser un petit peu toutes ces politiques. On a encore des brûleries pour les déchets hospitaliers qui sont une vraie source de nuisance pour l'environnement quand c'est pas mis carrément en décharge. Et si on va sur les décharges, on peut trouver des seringues, des objets à risque pour les personnes qui vont aller essayer de récupérer des matériaux sur les décharges. Donc, il y a d'abord une prise de conscience qu'il faut qu'on gère ces effluents, cette première dimension. Et puis, peut-être une deuxième dimension, c'est d'être attentif à ce que l'on utilise, de façon à avoir un impact environnemental moins important dans l'environnement proche de l'hôpital.
Pour conclure ce podcast, peut-être le message que vous aimeriez faire passer par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, donc l'hygiène de vie, l'hygiène face aux maladies infectieuses, soit en termes de bonnes pratiques pour la société, mais aussi de vous par rapport à vos recherches, que vous pouvez conclure et voir. Priscilla Dubos.
La nécessité de prendre conscience, je dirais que tout est vraiment interconnecté, que autant dans les études scientifiques qu'on mène, on doit s'imposer des collaborations qui nous permettent de prendre en compte l'ensemble des compartiments qui sont touchés par les phénomènes qu'on étudie, que la collaboration est nécessaire, que sans ça on comprend pas. Au final, mais que il faut que ce soit le cas aussi au niveau des décideurs politiques notamment, et que à la fois il faut que l'information scientifique aille vers les populations, mais qu'elle serve aussi malgré tout à mieux anticiper les changements qu'on vit actuellement, au niveau du notamment des environnements dans lesquels on vit.
Amine Gueye, même question, un message.
Oui, je pense que nous devons être avant-gardistes. La science fournit des résultats qui peuvent servir d'aide à la décision au niveau politique, et quelle que soit la volonté individuelle, c'est la décision politique qui peut faire quand même, qui peut protéger une société. Comme on parle d'hygiène, on l'a dit tout à l'heure, prendre une décision politique de mettre l'eau disponible, c'est majeur dans des pays africains. L'urbanisation est en train de pousser très rapidement, et tirer profit des résultats faits dans les pays développés pour éviter certaines difficultés qui peuvent survenir en Afrique de manière très accélérée, je pense que c'est avant-gardiste.
Pour nos grands bastiens, le mot de la fin.
On a vraiment besoin de travailler en interdisciplinarité. Très clairement, je sors volontiers de l'hôpital, qui est plutôt mon terrain de jeu préféré, mais je pense qu'on a besoin de travailler avec les autres disciplines pour justement porter ces messages de prévention. Que ce soit dans le champ de l'hygiène de vie, ou que ce soit dans le champ de la prévention et le contrôle de l'infection, dans la communauté ou dans les systèmes de santé. Apprendre à travailler aussi avec des collègues qui vont nous aider dans les sciences de l'implémentation. Comment faire en sorte que les recommandations qui sont bien connues soient plus faciles à appliquer et mieux perçues par tous ceux qui doivent les appliquer? C'est peut-être l'enjeu fort des mois à venir.
Merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de cette saison 2 de La Fabrique du Savoir, ainsi que la saison 1, sur lemonde.fr et les plateformes de podcast. À très bientôt.